Radio Campus 99.5.
Bienvenue aux Journées de la Communication Institutionnelle 2021. Cette année, la promotion de la licence Communication Institutionnelle des Organisations est fière de vous présenter l'événement en version 100% digitale. Pour rappeler le thème, nous allons parler de l'IRL, In Real Life, ce qui signifie la vraie vie, et de l'URL. Pour résumer, de la communication traditionnelle, la présence physique, et de la communication digitale, présence numérique. Toute la semaine, de midi à 13h, vous allez pouvoir entendre des tutoriels, tables rondes, mais également des interviews. Bien entendu, vous pourrez par la suite retrouver tout le contenu des Journées de la Communication Institutionnelle sur journeesdelacom37.fr et sur nos réseaux sociaux.
JCI 2021, lien IRL versus lien URL.
Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une interview radio dans le cadre des JCI 2021 IRL versus URL. Je suis Elisa et je suis avec Joanne, animateur également. Bonjour Joanne.
Bonjour Elisa.
Et je suis également avec Clément Horvat de l'entreprise My Serious Game. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour ouvrir la discussion Clément, pouvez-vous vous présenter ?
Alors, je suis en charge de la communication donc dans une société qui s'appelle My Serious Game à Tours. C'est une entreprise assez particulière parce que c'est quand même un secteur qui est assez peu connu. Hein. C'est la formation digitale, mais qui est vraiment en train d'exploser, en particulier avec la situation actuelle. L'idée, c'est de former des gens en entreprise à leur métier ou les sensibiliser finalement à d'autres, à des problématiques d'actualité ou encore développer ce qu'on appelle les soft skills, donc c'est toutes les compétences humaines qui sont de plus en plus importantes en entreprise, voilà, à travers du jeu vidéo ou d'autres types de formations digitales. Ça peut être de la vidéo interactive, ça peut être de la réalité virtuelle, voilà, toutes ces nouvelles technologies au service de l'apprentissage.
Très bien. Petite question en plus, vous êtes situé où et vous êtes combien ?
Alors, on est près de la gare de Tours actuellement. On est une quarantaine de pilotes à Tours, c'est-à-dire des chefs de projet, des ingénieurs pédagogiques, des développeurs, des designers. Et on travaille également avec une bonne centaine de prestataires pour des besoins très précis, très ponctuels, quand on travaille sur des jeux ou des formations très pointues.
D'accord.
Au niveau de votre parcours pro, est-ce que vous pourriez nous le partager et puis en plus nous partager qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans votre métier ?
Alors, moi j'ai fait l'IAE de Tours en marketing des services, donc j'ai un bac plus 5 en marketing, j'ai une expérience aussi à l'étranger dans le domaine du marketing, mais en fait moi ce qui m'a toujours passionné c'est la création en fait, que je fais beaucoup à titre perso depuis très jeune, et du coup voilà, je me suis naturellement dirigé vers des agences de publicité au début, notamment des Chevals à Tours, qui est assez connu. Et puis, voilà, j'ai aussi fait un peu d'auto-entrepreneuriat. J'ai travaillé dans les départements digitaux de plusieurs sociétés de la région. Et voilà, et j'ai démarré à My Serious Game il y a trois ou quatre ans. Voilà, et on est deux dans le pôle. On a quelqu'un qui est au marketing, Alban, et moi à la communication. Et on a une alternante qui nous a rejoint et qui nous aide sur tout ce qui est événementiel et relations presse. Voilà. Et ce qui me plaît là-dedans, c'est beaucoup de choses. C'est déjà la création, comme je l'ai dit. J'aime énormément créer. Donc je suis en charge de tout ce qui va être design de support de communication, que ce soit web ou print. Je fais du film également, donc tout ce qui va être vidéo pour mettre en avant tout ce qu'on peut faire, la photographie, l'identité visuelle, du podcast également. Voilà, c'est très très large, donc c'est vraiment passionnant et pas deux jours se ressemblent, donc c'est chouette. Et puis c'est aussi la fierté de mettre en avant des choses dans lesquelles je crois, parce que ça c'est hyper important, hein. Quand on travaille dans la communication, faut être en accord total aussi avec ce que fait son entreprise, et voilà. Et moi, pour moi, développer les compétences humaines, c'est quelque chose dont je suis fier, et j'ai vraiment la sensation que mon entreprise fait du bien, voilà, c'est un plaisir d'aller au travail tous les jours.
C'est parfait,
c'est inspirant, ça donne envie, hein.
C'est vrai.
Non, puis c'est un domaine en plus où voilà, c'est très jeune, la moyenne d'âge elle est de 30 ans, donc en fait je vieillis avec la boîte, hein, quand même, hein, mais oui, on est tous très jeunes et tous passionnés de technologie, c'est passionnant au quotidien, c'est super.
Avez-vous une anecdote sur un client, un dossier dont vous voulez nous parler aujourd'hui en lien avec notre thématique qui, je le rappelle, est IRL versus URL?
Des clients en particulier, non. On est tous dans le même bateau, hein, devoir s'adapter à une nouvelle situation. Nous maintenant, chez My Serious Game, c'est vrai qu'on est dans le digital, la formation digitale depuis 6 ans maintenant. Donc finalement, nous on est habitués à tout ça, mais on a énormément de clients qui découvrent cet univers. Comment travailler à distance, etc. Donc, nous, c'est pas un choc de notre côté. Maintenant, on le ressent quand même au niveau tout ce qui est communication événementielle. C'est vrai que là, les événements, c'est la catastrophe. Mmh. Tous les salons qui pour nous sont une composante majeure de notre travail en com. Ils ont tous été annulés. Ils commencent aujourd'hui à se faire en digital, mais. Quand on doit comparer un événement physique à un événement digital, c'est vrai que ça n'a rien à voir. On est sursollicité aujourd'hui par les webinars, etc. C'est vrai que la plupart des événements, on est plus sur de la quantité que de la qualité, parce que tout le monde essaye de s'y mettre, tout le monde essaye de... Voilà, il y a un bruit constant, c'est difficile de tirer son épingle du jeu là-dedans. Donc, aujourd'hui, c'est un peu le Far West, mais je pense que avec le temps, ça va, les choses vont s'améliorer, puis peut-être, j'espère, que bientôt on va pouvoir reprendre les salons physiques. Le prochain pour nous, il est en mai, on espère qu'il va se tenir, mais voilà.
On croise toutes et tous les doigts autour de la table. Est-ce que vous auriez finalement un projet qui vous a particulièrement marqué dans votre expérience au sein de My Serious Game?
Un projet de communication?
Un projet, un dossier sur lequel vous avez aimé travailler, en fait, parce qu'il a des caractéristiques finalement assez spécifiques ou sur le sujet?
En fait, nous, on a mis en place quelque chose il y a 2 ans, des études de cas. En fait, disons que, comme je disais, il y a beaucoup de bruit aujourd'hui dans la communication digitale. Et moi, de toute façon, j'ai toujours été motivé par une chose, il vaut mieux communiquer moins, mais communiquer bien. Et pas forcément communiquer pour communiquer, mais uniquement vraiment quand on a quelque chose d'intéressant à dire. Et c'est un peu ce qui nous a motivé à lancer ce qu'on appelle des études de cas. C'est un triptyque en fait qui met en avant un projet client qui a été particulièrement ambitieux, réussi, marquant, et qui c'est un triptyque avec livre blanc, podcast et une vidéo making of de 5 minutes. On en sort assez peu parce qu'on vraiment on mise sur la qualité puisqu'on cherche vraiment à faire du contenu à forte valeur ajoutée, quelque chose de vraiment intéressant. Donc, moi j'ai toujours plaisir à travailler là-dessus et demain d'ailleurs je pars à Paris pour tourner un making of chez un client et enregistrer le podcast dans la foulée. On est en plein dedans là, actuellement, donc c'est toujours intéressant.
Et donc vous, par rapport à ça, c'est ce que vous expliquez un petit peu depuis tout à l'heure, mais il y a vraiment une hausse de la demande concernant le digital ?
La formation digitale en particulier, ouais, tout à fait, parce que tout simplement, la formation, elle est constante, elle ne s'arrête pas à l'université, on continue d'apprendre en entreprise. On est formé à de nouvelles compétences, alors des compétences techniques, mais on est aussi formé à des compétences humaines. Là, le travail qu'on est en train de réaliser, donc, par exemple, ce que je vais tourner demain, on vient de lancer un jeu, en fait, c'est pas vraiment un jeu, c'est une formation digitale pour les laboratoires Servier, qui est sur le feedback, en fait. On enseigne en fait aux collaborateurs du groupe Servier comment faire un bon feedback en équipe, ce qui est hyper important parce que déjà ça permet de pas froisser ses collègues, mais ça permet surtout d'avancer de façon constructive. Donc, typiquement, ça c'est ce qu'on appelle un soft skill, c'est une compétence humaine. Et ça, aujourd'hui, on a de plus en plus besoin. Le problème, c'est qu'avant, on formait en présentiel. Les formations dites un peu old school, c'est un PowerPoint et tout le monde dans une salle. C'est un peu ce qu'on fait à l'université, finalement. et c'est pareil en entreprise. Mais aujourd'hui, voilà, il y a d'autres moyens de former. On peut former à travers du jeu vidéo. Donc, c'est quelque chose qu'on emploie beaucoup. La réalité virtuelle, ça peut être tout simplement de façon plus simple, ça peut être aussi des petits films en motion design, par exemple, avec à la fin des quiz, des choses comme ça. Ça peut prendre plein de formes. Et ça, c'est en plein boom parce que surtout avec le télétravail aujourd'hui, on est obligé de se former chez soi avec un écran. Et nous, c'est ce qu'on fait depuis toujours. On est leader en fait, même en France, de la formation digitale sur mesure. Donc aujourd'hui, oui, il y a une forte demande.
Eh bien, on va déjà faire notre pause musicale et on se retrouve juste après.
Tout de suite.
Hello. Yeah. Excuse. Could you put the pipe on the phone? Apparently that's who's making all the decisions around here. Daddy. Walking down the street with your hope. Well, I'ma make it home with my dope. You see me in quicksand, throw me a rope. If you can't cope, just say no. If you want a backstage pass, drop it like it's hot, don't make me ask. Give me a hit. I need that shit. Uninvited into my brain, my headache creeps at will. Now I'm compelled to pour some water so I can pop this pill. That's for real, not for play. That's the deal, what you say? Yeah, ooh. Trying to make it home with my dope.
Greetings. I am your habit. I am as far as you can see. Turning, wake up in the morning, yeah, you gon' come deal with me. Whether you call me an excuse, like you needed a reason, then this is right for the pickings. Your prediction is definitely in season.
Yeah. Uninvited into my brain, my habit creeps at will. I'm compelled to pour me some water so I can pop this pill. That for real, not for play, that's the deal, what you say?
Radio Campus 99.5.
Rebonjour, on se retrouve sur Radio Campus pour les journées de la communication institutionnelle. Nous sommes en interview avec Clément Horvat de My Serious Game et nous avons été rejoints par Angèle. Bonjour Angèle.
Bonjour.
Alors vous aviez une question à nous partager. C'est parti, on vous écoute.
Tout à fait. Alors, pour faire un lien direct avec la problématique de la JCI, pensez-vous que l'on peut tout transmettre à travers les réseaux sociaux ou Internet, par exemple ? Donc, par exemple, est-ce que un événement digital est similaire à un événement réel, d'après vous ?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sursollicité par tout ce qui est webinar, etc. Et bon, ça n'a rien à voir, hein, clairement, avec un événement physique. Parce que bah, déjà il y a le contact humain qui est hyper important, hein, voilà, le contact physique. Maintenant, c'est surtout que dans les événements physiques comme les salons, on a vraiment le temps de discuter avec la personne, on peut lui montrer plus facilement des choses, etc. Bon, voilà, le webinar c'est plus, quand même de la communication plus descendante, hein, souvent avec un maître de conférence qui va proposer du contenu. Il y a en général un petit chat après, d'un échange avec les participants, mais c'est toujours très différent parce que on est vraiment sur du, on est dans un groupe, hein, c'est-à-dire qu'une personne qui a une question particulière sur un projet qu'elle peut avoir, elle va peut-être pas oser en parler devant tout le monde pendant la session. Elle sait qu'elle a un temps très limité. Donc voilà, c'est pas la même chose qu'en salon où on peut passer une heure avec une personne qui vient sur notre stand pour avoir des renseignements, qui a une problématique très précise, etc. Donc c'est pas du tout la même expérience. Et puis évidemment, il y a beaucoup moins de retours par la suite avec un événement digital. Disons que c'est une solution, c'est une sorte de pansement, hein, aujourd'hui pour pendant cette crise. Et voilà, on espère que on pourra bientôt l'enlever. Mais voilà, parce qu'on a hâte de revoir un petit peu du monde. Voilà, les salons, c'est toujours un événement super sympa pour tout le monde. Donc c'est beaucoup de stress aussi, hein, de l'organisation, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de travail pour organiser un événement digital. Mais voilà, on l'a vu. Nous, on a par exemple cette année, on a participé au CES de Las Vegas en digital. Voilà, pour l'avoir fait en physique il y a quelques années, c'était quand même une autre expérience. mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis il y a surtout une différence dans la façon de communiquer, parce qu'évidemment tout ce qui est support de communication print est rendu complètement obsolète, hein, par la situation actuelle. les cartes de visite, les livres blancs même hein, qu'on a, donc du coup qu'on propose aujourd'hui en version PDF interactive, mais que voilà, on s'appliquait à imprimer sur du beau papier, etc., pour faire quelque chose de très qualitatif. Bah aujourd'hui, ça reste dans les cartons et c'est comme ça. Mais il faut s'adapter, faut s'adapter à de nouvelles façons de communiquer, de nouvelles façons de trouver des prospects, et voilà, c'est comme ça.
Ce qui est très intéressant justement dans cette histoire d'adaptation, ça nous renvoie un peu à ce que vous disiez, vous avez choisi le jeu vidéo, et finalement c'est pas forcément un choix anodin, donc pourquoi avoir finalement cette tournée vers le domaine du jeu vidéo pour transmettre des messages ?
Alors, l'activité de My Service Game, elle repose là-dessus parce que, en fait, bon là c'est plus de l'ingénierie pédagogique, hein, on peut même parler de neurosciences, voilà, on travaille avec des experts vraiment dans le domaine de l'apprentissage qui ont découvert que il est beaucoup plus facile d'apprendre en s'amusant aussi, enfin de façon ludique, c'est ce qu'on fait depuis tout petit, hein, et c'est ce que font les animaux également même. Voilà, ça repose tout simplement sur ce principe-là. L'idée, c'est qu'à travers les émotions, à travers le plaisir de jouer, aussi des mécaniques de ce qu'on appelle la gamification, hein, la récompense, ce genre de choses, il y a des tas de théories en fait, hein, sur lesquelles notre métier repose, font que voilà, il est plus facile d'apprendre et la mémorisation est meilleure également. Voilà, on retient mieux les informations quand on l'apprend par ce biais, contrairement à l'information tout simplement descendante ou voilà. Donc il y a plein de, c'est une nouvelle manière d'apprendre et voilà. Et aujourd'hui, avec le développement des technologies, on est capable de faire des formations très immersives. Et qui facilite vraiment l'apprentissage.
Parfait. Je vais passer directement à la dernière question, puisque finalement, le contact direct, encore essentiel ou non, on y a plus ou moins déjà répondu pour vous, c'est pas vraiment équivalent, si j'ai bien compris.
Oui, mais après, c'est peut-être parce que les outils n'existent pas encore pour... pour vraiment faire des événements digitaux, voilà, qu'on autant d'impact qu'un événement physique, mais voilà, on ne sait pas ce que nous réserve demain, et puis voilà, quoi, l'humain regorge d'idées, voilà, et trouvera des solutions pour s'adapter à cette situation, hein, qu'on a tous pris un petit peu, on a été pris par surprise, et du coup tout le monde s'adapte comme il peut. Maintenant, il existe énormément d'outils, même nous on en développe, hein, aussi pour faciliter le contact, les échanges entre un apprenant et son formateur, ou même des gens en entreprise, voilà.
Bah, puisque c'est la question, quel est l'avenir de la communication digitale pour vous ? Vers quoi on tend ?
Alors là,
c'est une grande question en général.
Bah oui, parce que là, on parle de quoi ? On parle de communication sur les réseaux sociaux.
Par exemple, quelles sont les choses que l'on peut encore développer pour plus ou moins s'approcher de l'IRL ?
Je pense que, bon, après moi, c'est mes convictions personnelles, mais je pense qu'il faut plus se focaliser sur la qualité plus que la quantité en termes d'événements, de webinars, tout ça. On est sursollicité, hein, enfin, dans le milieu professionnel, quand on ouvre sa boîte mail, c'est en grande partie des entreprises qui nous sollicitent pour participer à tel ou tel webinar. La qualité, elle n'est pas toujours au rendez-vous, on le sait tous. Donc voilà, je pense que aujourd'hui, tout le monde s'essaye à une nouvelle façon de communiquer, tout le monde cherche à trouver de nouveaux débouchés, de nouvelles façons aussi de faire connaître ses produits, etc. Et je pense que au final, ce qui va primer, ça va être la qualité qui va sortir du lot. Une communication qui peut être soit impactante, différente, ou alors qui est très bien réalisée, avec du vrai contenu à proposer, hein, c'est pas juste de la pub, voilà, c'est vraiment proposer quelque chose. Par exemple, nous, ce qu'on fait avec les livres blancs, on apporte vraiment du contenu aux gens qui nous suivent. Ça peut même être des concurrents, hein, qui viennent chercher des idées à travers ce qu'on
comme
va produire,
quoi.
mais on va donner des clés sur voilà, sur de la pédagogie, sur de la gamification, sur des méthodes qu'on utilise pour qui ont fait d'une réalisation pour un client à succès. Donc voilà, on donne des clés, on apporte vraiment du contenu de qualité aux personnes qui vont nous suivre. Donc voilà, je pense que ça c'est important, c'est de pas perdre de vue la valeur ajoutée dans les productions de communication digitale qui vont être diffusées, quoi.
Parfait. On va conclure cette interview radio. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour la fin, Angèle ?
Non, mais c'est vrai que votre point de vue est très intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est totalement sursollicité par toutes ces informations, notamment par le biais du digital. Et c'est vrai que si l'on tendait vers davantage de qualité en termes de communication, ce serait une avancée. Et puis, c'est aussi une façon de penser que nous, en tant que futurs communicants, à laquelle on peut déjà réfléchir et peut-être adopter, finalement.
Bien sûr, et puis de toute façon, tout bouge tellement vite, c'est extrêmement difficile de dire, voilà, la communication digitale de demain, ce sera ça. Je n'en sais rien, personne n'en sait rien. Mais voilà, typiquement, on voit aussi que les mentalités évoluent avec les technologies, et quand on voit par exemple les réseaux sociaux, vous devez être bien placé pour le savoir, je pense que comme tout le monde, vous commencez à décrocher un petit peu, parce que...
C'est vrai.
Il y en a trop, il y a trop de choses, c'est beaucoup trop de contenu, pas toujours pertinent, très, très peu souvent pertinent, et voilà, il y a un moment où ça fait beaucoup de bruit et on a juste envie d'un peu de silence parfois. C'est un débat qui est pas nouveau, hein. On en parle déjà aussi avec la communication dans l'espace public, l'affichage, etc., qui tend à se réduire. Les gens ne veulent pas être sollicités comme ça. Donc il y a une nouvelle façon, hein, de faire connaître ses produits, ses services. Mais il faut le faire intelligemment et pas ajouter du bruit au bruit, parce que je pense que tout le monde en a assez. Hein.
Mmh. Ah oui, c'est vrai que vos paroles sont une grande sagesse. Vous avez utilisé, l'image du Far West, qui est très intéressante, parce que c'est vrai qu'on a un peu l'impression que la communication digitale, depuis la crise de la Covid-19, c'est devenu le nouvel Eldorado. Mmh. C'est la ruée vers l'or. Tout le monde veut son produit digital, et c'est très intéressant que vous rappeliez l'importance, fait, finalement, de produire du contenu de qualité pour que le message fonctionne, parce que comme vous dites, il y a beaucoup de bruit, on parle même d'infobésité parfois, donc finalement, je pense que c'est des paroles très très sages et assez inspirantes pour toutes les personnes qui nous écoutent, surtout toutes les personnes qui communiquent.
Ben merci, j'espère que...
Bon, bah, merci à tous en tout cas d'être venus aujourd'hui. On va faire une pause et on retrouve Maryse Rizza juste après.
Radio Campus 99.5.
Deixa essa tristeza e vem falar de amor. Pode ter certeza que eu ainda sou tudo aquilo que você deixou. Sem ver de outro amor igual, você não ia ter. Deixe dessa vida e desse leve trás. Juntos os dois e fim. Mas deixe essa tristeza, tristeza, e vem falar de amor. Pode ter certeza que eu ainda sou tudo aquilo que você deixou. Sem ver de outro amor igual, você não ia ter. Deixe dessa vida, dessa vida. Ainda não esqueceu de mim. Tabadabada, faz assim. Tabadabada, vem pra mim. Novamente juntos, os dois e fim. Tabadabada, faz assim. Tabadabada, vem pra mim. Novamente juntos, os dois e fim. Tabadabada, faz assim. Tabadabada.
Radio Campus 99.5.
JCI 2021, lien IRL versus lien URL.
Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une interview dans le cadre des JCI 2021, donc journée de la communication institutionnelle, avec pour thème cette année IRL contre URL. Je suis Joanne et je suis avec Elisa, animatrice.
Bonjour à tous.
Bonjour Elisa et nous recevons aujourd'hui Maryse Ritza.
Bonjour Maryse.
Bonjour.
Madame Ritza.
Bonjour à vous deux. Ah oh, Maryse, c'est très bien.
Maryse, c'est très bien.
Oui, oui.
Eh bien, pour ouvrir la discussion, Maryse, pouvez-vous vous présenter dans un premier temps ?
Oui, tout à fait. Donc, je suis Maryse Ritza, je suis enseignante-chercheure à l'IUT de Tours et je suis la responsable de la licence professionnelle Data Management. Et j'interviens dans la LP Communication institutionnelle et le DUT Info numérique, notamment en veille et en surveillance de l'information.
Quel est votre parcours professionnel ?
Ah, mon parcours professionnel est varié, l'air de rien. Je ne suis plus si jeune que ça. J'ai commencé à travailler il y a plus de 20 ans et mon premier poste, c'est un poste de documentaliste en musée. J'ai un premier parcours universitaire en tant qu'historienne de l'art. Et j'ai eu la chance d'intégrer un musée, le musée de Roubaix, la piscine. J'ai fait partie de l'équipe d'ouverture et j'ai découvert mon métier, on va dire, sur le tas, le métier de documentation. Et ça m'a passionnée. L'organisation de l'information, en fait, m'a passionnée au-delà de l'histoire de l'art que j'avais déjà en tant que passion. Donc, j'ai continué. Résultat, j'ai repris cursus universitaire en sciences de l'information cette fois-ci. J'ai passé un master gestion de l'information et j'ai intégré la métropole européenne de Lille en tant que chef de projet en gestion électronique documentaire, records management et knowledge management. Alors pour ceux qui veulent des petites explications, le records management, c'est l'organisation des documents et la circulation des documents à l'intérieur de l'organisation et le knowledge management, c'est la capitalisation des savoirs et des compétences de l'entreprise. Donc j'ai fait ça pendant presque 10 ans. Et puis ensuite, étant donné que j'étais un peu arrivée à l'apogée, on va dire, de ces missions dans l'organisation, j'ai basculé sur un poste de veille avec le service formation de la métropole européenne de Lille. Justement, après le projet de knowledge management, j'ai mis en place un système de veille pour tenir à jour toute la connaissance de mes collaborateurs au sein de la métropole. Donc ça nécessite de faire une cartographie de tous les métiers divers et variés qu'on peut avoir dans une métropole, de repérer toutes les sources d'informations, de participer et de travailler fortement avec la communication interne et avec le service formation, de mettre en place des communautés de pratique. En fait, quand je suis devenue, parce que j'ai passé une thèse au fur et à mesure du temps, et je suis devenue enseignant-chercheur, mais quand je suis partie, en fait, on était en train d'installer les communautés de pratique et le RSE, réseau social entreprise, au sein de l'organisation. Voilà. Donc, j'ai un parcours un peu varié. Aujourd'hui, je suis enseignante-chercheur et je mets à profit toutes les compétences acquises sur le terrain et ma recherche, qui est liée notamment au pouvoir par la classification de la documentation. J'ai étudié comment, à travers, quand on passait du papier au numérique, en fait, qu'est-ce que ça changeait vis-à-vis des rôles, des acteurs, du pouvoir, des métiers. Et je dirige actuellement mes recherches sur des études, le croisement du genre, prisme du genre, le pouvoir, la classification et le prisme du genre.
Qu'est-ce qui vous plaît en tant que telle dans les activités, dans...
D'une manière générale, alors moi j'ai eu la chance, j'ai toujours dit, je dois avoir une belle étoile professionnelle parce que j'ai adoré toutes mes étiquettes professionnelles. J'ai toujours travaillé par passion, j'ai cette chance-là. J'ai toujours choisi ce que je voulais faire et quand je n'aimais pas ce que je faisais, je suis partie. J'ai pris un peu de courage et je suis partie, quitte à démissionner de certains postes. J'ai pu le faire et je pense que quand on travaille, franchement, quand on travaille avec passion, quand on dessine des projets et qu'on s'en donne les moyens, parce qu'il faut s'en donner les moyens, il y a des fois, je suis passée par des phases pas trop faciles et puis surtout, je me suis un peu découverte. Souvent, je dis aux étudiants, bon, vous êtes jeune, on vous demande de vous orienter, on vous demande de choisir, on vous demande, mais rien n'est fixé en fait. Vous évoluez avec la vie, avec les rencontres, les situations, le secteur économique, vos diplômes, votre réseau, aussi énormément le réseau professionnel. En sciences de l'information et de la communication, le réseau a beaucoup de place. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance de travailler par passion. Et ce qui je pense que la première chose qui me plaît, c'est l'échange humain. Je vais être très honnête, et je pense que dans toutes les activités que j'ai pu établir, il y a le côté organisationnel. Moi, j'aime bien. Hein, je suis un peu, j'ai un peu cet esprit de documentaliste que j'ai adoré, qui est de classer, ranger, organiser. J'aime beaucoup ça. Mais avant tout, avoir des échanges, travailler au service de certaines personnes, améliorer les organisations, améliorer les compétences, communiquer avec les autres. J'ai toujours adoré ça.
Passion, en tout cas, on le ressent beaucoup dans votre discours. Est-ce qu'on pourrait faire un zoom sur l'association Grandir Trans? Et on pourrait se poser, par exemple, la question comment inclure des populations discriminées par la communication et l'événement, pour rentrer dans notre thématique.
C'est une grande question. Je pourrais.
Une grande question, effectivement.
C'est une
on a le temps. Hein, donc,
c'est une très, très grande question. Bon, alors, Grandir Trans, c'est une association qui existe depuis un mois, dont je suis la présidente. J'ai la chance d'être la présidente. Elle a été créée par quatre mamans, dont moi. Donc, je suis avec trois mamans qui sont réparties géographiquement à travers la France. Il y en a une à Toulouse, à Talence, et une autre à Bordeaux. Et moi, à la base, qui venais de Lille, mais maintenant qui suis à Tours, nous sommes quatre mamans et nous avons des enfants transgenres en bas âge. Enfin, qui ont aujourd'hui mon enfant a 14 ans, mais il a fait son coming out à 10 ans et les autres mamans aussi. Et en fait, on fait partie d'un collectif qui est né sur Facebook, d'un groupe virtuel, un groupe fermé, mais qui. Le bonheur et la lourde mission d'aider des parents qui sont un peu perdus devant la transidentité de leur enfant, de les guider. Ce groupe a été créé grâce à une femme à qui je rends hommage tout le temps, qui s'appelle Michèle Joubert, qui est une femme trans de 70 ans aujourd'hui et qui est d'une bienveillance extraordinaire. Surtout vis-à-vis de nous, parents cis, hein, qui racontons beaucoup de bêtises, je dois dire, puisque nous sommes nés dans notre cercle de binarité et nous faisons des enfants dans ce fameux cercle qu'on ne re-questionne pas si on n'a pas besoin de le re-questionner, va-t-on dire. Hein. Il n'est pas beaucoup questionné, on va dire, dans notre société, mais résultat, quand on a un enfant transgenre, voilà. Donc, il est là pour cette association, elle est là pour aider les parents, avant tout, à s'orienter correctement, mais elle est là aussi pour lutter contre la transphobie, notamment dans les écoles, parce que nos enfants... Aujourd'hui, on est 400. Hein. On est 400 dans l'association, il y a 400 parents. Donc, beaucoup d'enfants sont déscolarisés, et ça me crève le cœur, je dois dire. Beaucoup d'ados qui sont à la maison et qui travaillent à la maison avec leurs parents parce qu'ils ont été trop harcelés, trop, voilà, ils ont trop souffert. Donc, elle est là pour lutter contre la transphobie, pour un peu faire évoluer ça, pour donner des droits à nos enfants, parce que nos enfants parlent à travers nous jusqu'à leur majorité, pour lutter contre la disparité régionale médicale. Et il se trouve qu'il y a énormément de problématiques pour trouver des médecins trans-friendly aujourd'hui, et que nos enfants, quand on va chez un médecin avec notre enfant, et qu'on n'a pas envie de lutter contre sa transidentité, qu'on n'a pas envie de le normer dans une binarité, qu'on a juste envie d'écouter, mais envie d'être aidé en tant que parent, parce qu'on a besoin d'un relais. Bref, il y a plein de missions et cette association, elle est, je pense, vu le traitement médiatique qui existe aujourd'hui et qui existe très dernièrement, enfin voilà, très récemment, il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de documentaires, beaucoup de films. On a la chance dans le collectif d'avoir la maman de Sacha, de petite fille, qui est passée il n'y a pas longtemps sur Arte, qui est une femme extraordinaire et qui en a pris plein la tête. Donc bref, vous voyez, il y a beaucoup de travail à faire pour juste respecter en fait le droit de nos enfants et d'améliorer l'épanouissement de leur enfance et de leur adolescence jusqu'à leur majorité où, ma foi, ils feront ce qu'ils veulent et ce qu'ils souhaitent.
Finalement, ce qui est assez fabuleux avec cette association, c'est qu'au-delà de son but qui est absolument génial de pouvoir accompagner finalement les parents à mieux accompagner leurs enfants, Finalement, il y a une véritable vertu à la digitalisation parce qu'on a tendance à penser à des associations très physiques. Et le fait que ça passe finalement par des réseaux sociaux, ça permet de créer finalement des liens à travers de grands espaces.
Nous sommes nés de la digitalisation. On est un groupe et un collectif. On était 100 il y a 4 ans, on est 400 aujourd'hui. Et on a monté l'assaut à un moment donné en se disant « Non, là, on a trop de demandes de journalistes. On a trop d'articles, on a trop de problèmes. Il faut s'appareiller d'une institution qui va pouvoir nous représenter et nous parler. » Pardon, s'il n'y avait pas eu cette digitalisation, ces réseaux sociaux, moi, j'aurais jamais rencontré toutes les personnes que j'ai rencontrées et les belles personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui. Jamais. J'aurais eu, si, j'ai eu le soutien de certains amis au planning familial, au centre LGBT à l'époque de Lille, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a orientée vers des médecins en local. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Et il y a des termes, il y a des choses qu'on se permet de dire dans ce groupe qu'on ne dirait pas. Je pense en présence physique. Même autour d'une table ronde, je ne pense pas qu'on se le permettrait. Alors que là, la discussion, elle est libre. Les gens sont tellement bienveillants et sont tellement passés aussi par toutes les étapes. Donc voilà, il y a toute cette problématique à faire. Mais en effet, la digitalisation est un avantage. Et je voulais dire, par rapport à votre thématique de travail, que je la connais, cet avantage de digitalisation sur le plan, on va dire, plus associatif, mais je l'ai connu et je la connais encore sur le plan professionnel. Parce que quand on met en place des communautés de pratique, en fait, historiquement, les réseaux sociaux sont arrivés, les gens se sont emparés des réseaux sociaux, vos cours de culture numérique, n'est-ce pas ? Et petit à petit, on les a intégrés en interne. Petit à petit, la communication interne et institutionnelle s'est rendue compte de la force de ces communautés de pratique. Et donc, les ont intégrés aujourd'hui en réseau social entreprise vers quelque chose qui s'appelle l'intelligence collective et qui va apprendre à nourrir et aller vers l'innovation et permettre tous les collaborateurs de l'organisation de pouvoir émettre des idées, alors qu'en fait, nous avons des environnements de travail qui sont très hiérarchisés par des organigrammes. Mais là, les communautés de pratique délaissent cet organigramme et laissent la place là, à l'avantage du partage. Et les communautés de pratique, au-delà des capacités qu'elles ont à exister à travers les outils aujourd'hui comme Yammer, comme Teams, comme certains réseaux sociaux en interne ou d'autres choses. Hein. Hier, je parlais de ça avec mes étudiants de LP. Je disais, la première chose, hein, le premier outil qui existait, c'est la boîte mail, la boîte à idées. Ça a été le premier outil de cette intelligence collective, alors qu'en fait, vous pouviez passer des heures en réunion de brainstorming, hein, comme on les appelle. Mais aujourd'hui, tout est mélangé. Donc, je pense qu'il n'y a pas, je pense qu'il y a pas un mieux, un pour, un contre. Moi, je pense que quand on sait. L'important, c'est de savoir mélanger les deux types de communication de l'appliquer d'une manière intelligente et pertinente par rapport à la localité où on se trouve, par rapport à l'organisation. Il n'y a pas une recette. Si votre organisation, elle est davantage basée sur des modes de pratique de communication institutionnelle, papier, matérialisé, vous allez petit à petit pour aller dématérialiser tout ça, digitaliser tout ça. La grosse erreur à ne pas faire, et je vous le dis parce que moi je l'ai faite, hein, j'ai été jeune et donc je suis arrivée avec plein d'ambitions dans mes postes et je me disais j'ai la connaissance de l'outil digital. Je me sentais un peu supérieure, je pense, et j'avais l'impression que j'allais apprendre ça à tout le monde et que tout le monde allait s'y mettre. Ben non. Voilà, je vous le dis, parce que quand ce n'est pas appliqué intelligemment à vos collaborateurs, il faut savoir doser les choses, il faut savoir s'adapter aux localités dans lesquelles on travaille.
Pour poursuivre sur ce côté professionnel, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur votre métier qui vous semble pertinent par rapport à notre thématique ?
Alors, c'est plus ça va faire plaisir à votre prof, à Madame Clémenceau Indy, parce que c'est une anecdote de droit. Quand j'étais à la MEL, nous organisions toute une comprint institutionnelle par rapport au réseau d'agriculteurs qui pouvait exister autour de l'île. Et on avait des brochures qu'on pouvait consulter et distribuer à toute la métropole avec le réseau et tout un circuit d'agriculteurs qui vendaient tel produit, cultivaient tel produit. Et donc, celui qui voulait se faire un circuit vert, entre guillemets, pouvait l'avoir. Et donc, c'était la MEL qui s'occupait de ça. Et moi, comme j'étais en charge de mettre en place toutes les bases de données photographiques de l'institution, forcément, pour toutes les brochures de communication, on faisait appel à moi pour illustrer, en fait, j'étais l'iconographe des brochures. Et vous savez, en communication, on le dit tout le temps, hein, je travaille donc de manière très proche avec le service communication. Et en communication, on fait toujours tout dans l'urgence. Ça, c'est la grande formule, et c'est vrai. Parce qu'il y a tellement de choses à faire que voilà. Et donc c'était au tout départ justement de tout cet aspect digitalisé. Faut aller vite, hop, on va la faire, on va la primer, on va la mettre sur le site, on va la distribuer, ça va partir en print, super et tout. Et donc juste avant, on s'occupe de l'illustration. Donc moi je fais attention, les droits machin. On a tous les droits, tout va bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pour illustrer la brochure, on était mécontent de l'iconographie en page de couve de cette petite brochure. Et donc, on travaillait avec un graphiste à l'époque qui était graphiste. Hein, et il s'est dit non, cette photographie, ça ne lui convenait pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il a décidé d'aller faire une petite balade et de photographier une demeure qui ressemble à une ferme, ok, et qui s'est retrouvée sur la brochure, en fait. Très belle demeure. Et en fait, les avantages de la digitalisation et tout, à l'époque, il y avait beaucoup moins de contrôle et tout. Il a rendu, mis en ligne, c'est parti en print, le bon tiré, vu que j'avais validé à la base, on n'a pas fait une validation une deuxième fois. Et voilà, et puis 15 jours après, on a un coup de téléphone d'une dame qui était propriétaire de cette demeure et qui a un petit peu râlé parce qu'en fait, en l'occurrence, sa demeure était inventoriée au monument historique par la direction régionale des affaires culturelles. Donc, on a eu la DRAC sur le dos aussi. Et on s'est fait un peu taper sur le doigt parce que tout le monde, absolument tout le monde, parce que c'était vous savez, ça commençait les circuits verts, l'intérêt pour l'écologie, tout ça. Et donc, il y avait pas mal de gens qui faisaient le circuit et qui frappaient chez elles en demandant des produits d'agriculture, alors que pas du tout. Donc, ça l'a un petit peu énervée. Elle n'était pas contente, madame. Et résultat, ça nous a causé beaucoup de problèmes. Et voilà, je voulais juste vous dire que ces problèmes de droit dans l'environnement print et dans l'environnement digital sont plus que jamais à vérifier, à revérifier, à déterminer. Comme aujourd'hui, il faut vérifier toute l'information que vous pouvez trouver parce que il y a énormément de fake news, de fausses informations, de désinformations, de bruit informationnel sur la toile, sur tout ce que vous pouvez avoir avec toutes les sources qu'on a. C'est assez difficile pour quelqu'un qui n'a pas cette culture de vérifier l'information. Il faut vérifier les droits aussi. Et c'est vraiment pas anodin Je réinsiste toujours sur cette question-là parce que même moi, en interne, le droit a beaucoup évolué à travers les années, au travers des années. Là, avec tout l'environnement RGPD, encore plus. Donc, c'était pour la petite anecdote des choses un peu compliquées qu'on peut vivre quand on gère et de l'information et du document.
C'est parfait. Merci beaucoup pour cette anecdote de droit, sous une vision de droit. On va faire une pause musicale et on se retrouve dans un instant.
JCI 2021. Lien IRL versus lien URL.
Radio Campus 99.5.
Nous sommes de retour sur Radio Campus. Nous sommes toujours avec Maryse. Rebonjour à tous. Et Johan, bien sûr.
Rebonjour.
Rebonjour.
Alors, la prochaine question, Johan.
Eh bien, pour continuer finalement avec notre thématique JCI IRL contre URL, est-ce que vous pensez que l'on peut tout transmettre à travers les réseaux sociaux, Internet ou le digital de manière générale?
Ce qui se transmet, c'est vraiment des choses qui sont particulières. Alors, ça peut être très contradictoire parce que je vais parler de la confiance. Mais ce qu'on transmet en termes de communication, en l'occurrence, c'est très lié, en tout cas sur les réseaux sociaux, je pense. Alors, soit à l'image de marque, pour quand on est en communication institutionnelle, on a une image de marque à défendre, à représenter. Donc, on peut pas tout transmettre. Moi, je sais que par expérience à la mail, tout ce qui était sur réseaux sociaux, c'était davantage lié à toute la promotion des services, des événements, des valeurs de l'institution. Et je dois dire, étant donné que j'ai travaillé dans une métropole européenne de Lille, donc dirigée par des élus, que tout ce qui se passait en physique, en réunion physique, c'était davantage lié soit au management corporate, soit à la politique. Et on était davantage dans la communication politique. Puisqu'on n'utilisait pas les réseaux sociaux pour défendre un programme politique. Ça, c'était autre chose. Alors que les métropoles sont conduites par des élus. Donc, ils ont bien, à un moment donné, une couleur politique. Ça se voit certainement et ça se devine forcément au travers des communications, hein, au travers des choses qu'on peut défendre, ou non d'ailleurs. Mais la communication institutionnelle sur les réseaux, elle est davantage présente, développée pour les services et pour la promotion de ce qui peut se passer à l'intérieur de cette institution. Est-ce qu'on peut tout dire? Non, on ne doit pas tout dire, et encore plus quand on est une institution, puisqu'on a le devoir, et là c'est le lourd devoir des community managers, de représenter l'institution et de modérer les réseaux sociaux. Et on ne modère pas sur le digital, puisque de toute façon, ça je pense que vous le savez, derrière un écran, on dit aussi plus de choses. Je vais vous donner un exemple. Il se trouve qu'il y avait le forum de l'étudiant ce week-end, et comme les conditions sanitaires obligatoires, nous n'avons pas pu faire ce forum en présence à l'IUT en physique. Donc nous avons eu une magnifique plateforme où les gens pouvaient se rendre et on avait un avatar. D'accord ? On était présent sous forme d'avatar. Et j'ai été très étonnée et amusée parfois même, hein, de voir le nombre de personnes qui s'amusaient à faire danser leur avatar dans les couloirs du forum, qui testaient toutes les fonctions. Et je me disais, tiens, c'est marrant, est-ce que si, par exemple, t'es au sein de l'IUT ou au sein du forum de l'étudiant dans une grande salle, je ne pense pas que les gens fixes se seraient permis ce genre de choses, vous voyez ? Donc, c'était très perturbant en même temps. Donc, vous voyez, c'est pas... La reproduction en tant que telle, elle permettait des choses. Les parents m'ont dit, super, on a fait 7 écoles en 2 heures, on n'aurait jamais fait ça en physique, hein, poser des questions, tout ça. Donc, je pense que événement digital, événement réel, les deux se complètent. C'est juste la stratégie de communication qui doit être bien définie entre le digital et entre la stratégie print.
Si l'on parle maintenant de la veille, on peut dire ou pas qu'elle a connu une véritable révolution avec l'explosion du digital ?
Oui, de toute évidence. Alors moi, la veille, au départ, je la faisais avec un tas de revues sur mon bureau, des photocopies. Alors, je vais quand même vous expliquer. Donc, parce que au début, quand je suis arrivée à la métropole européenne de Lille, j'avais mes collaboratrices qui scannaient tous les articles qu'ils trouvaient dans les revues, découpés, on scannait, on gravait sur des CD et on distribuait les CD aux élus. En clair, puisque l'idée, c'était de transmettre l'information qui avait eu lieu sur la commune aux élus le matin. Entre guillemets, la revue de presse, la veille presse, elle était faite de cette manière-là. Alors, en termes de temps, en termes de coûts, en termes de en termes RH, ressources humaines, c'était très impressionnant. Donc, forcément, avec l'arrivée des flux RSS, des portails de web, des agrégateurs et de tout ce qui permet d'accélérer ces processus de veille, oui, bien sûr, il y a eu une révolution complètement, même trop rapide, je dirais, parce que quand vous regardez bien l'échelle du web et la manière dont les choses se sont déroulées dans les temps du web, donc l'arrivée, l'explosion du web social et ensuite le web sémantique, donc le web 2 et le web 3, on a connu en très peu de temps, en fait, une révolution dans nos métiers. Ce qui, dans l'espace de l'organisation professionnelle, représente très peu de temps. Donc aujourd'hui, quand vous allez dans les organisations, je sais que les étudiants, quand ils arrivent, ils disent « Mais madame, en fait, il y a tout, en fait, il y a de tout. Bah oui, il y a de tout. Il y a des personnes qui sont passées au digital, mais il y a des personnes qui résistent parce qu'ils n'y arrivent pas. La conduite du changement, ça fait partie de la communication interne, ça fait partie du management interne et c'est très difficile parfois. Et souvent même d'ailleurs, ça peut être très long. Donc, résultat, on se retrouve avec des systèmes, un mélange de systèmes qui peut faire dysfonctionner, voire bricoler un peu l'organisation. Mais voilà, ce sont des choses qui vont se régler maintenant avec le temps. Donc oui, sans aucun doute, une vraie révolution. Et encore plus aujourd'hui avec la data, puisque du document que nous recherchions, de l'article que nous recherchions avec les flux RSS et les mots-clés, tout ça, aujourd'hui, le document s'est transformé en données. C'est digitalisé encore plus au niveau particules, donc on appelle le web sémantique. Hein, on a extrait toutes les informations du document pour les transformer en données. Et aujourd'hui, l'ouverture des données, l'open data, nous permet de croiser certaines données de plusieurs organisations pour en faire des ontologies, donc c'est-à-dire des choses qui vont permettre davantage de savoir avec de la data visualisation. Donc les choses ont vraiment, et je pense que nous ne sommes qu'au début.
Vous partagez justement cette expérience dans ce forum virtuel, ce qui peut mener à une question. Est-ce que le contact direct est encore nécessaire? Serait-il encore essentiel? Parce que c'est vrai qu'avec la Covid-19, on a dû digitaliser beaucoup de choses, les cours, les forums, les événements. Ça peut poser la question. Qu'en pensez-vous?
Oui, deux anecdotes qui vont vous permettre de réfléchir. Je vais vous parler du challenge de la veille qui a eu lieu la semaine dernière. Le challenge de la veille, pour faire court, c'est un challenge de tous les IUT, de tous les DUT information numérique. Les deuxièmes années participent à un challenge qui est donné par une université et ils ont entre l'espace de 2 semaines pour résoudre un problème. Le sujet, pour balayer le sujet et produire un processus de veille. Cette année, le sujet était intéressant, c'était la ville inclusive. Le commanditaire, en fait, était un spécialiste de nouvelles technologies dans l'inclusion des villes et travaillait sur les smart cities depuis un certain temps, mais notamment était spécialisé envers des publics discriminés. Donc, il nous demandait comment développer davantage, et normalement, enfin, et plus spécialement pour le public en situation de handicap. Donc, alors forcément, déjà, il a fallu le temps de prendre en compte et en mesure le sujet, parce que la ville inclusive, c'est très large en fait, l'inclusivité aujourd'hui, quand on parle d'inclusivité. Mais ça concerne essentiellement les populations discriminées, y compris dans l'espace d'urbanisation. Et ceux qui ont gagné, donc Tours est arrivé troisième et on était très fiers d'eux parce qu'ils ont vraiment bien travaillé. Le groupe gagnant est celui qui a proposé, tout simplement, avec certes un super processus de veille digitale, avec toutes les bonnes sources qu'il fallait, le tableau de bord qui va bien, les outils digitaux qui vont bien, mais également le fait d'aller voir les personnes, tout simplement. Parce que quand on parle d'inclusivité, notamment dans les nouvelles technologies, eh bien, il faut aller voir les personnes qui sont légitimes pour parler de cette discrimination qu'ils vivent au quotidien et que nous, peut-être, personnes privilégiées, nous ne ressentons pas. Et le jury, Okinéa, le jury, a eu une réflexion très intelligente en disant, faut pas oublier, certes, il y a plein d'outils, on fait plein de choses, alors qu'eux, ils sont high-tech et pure digitalisation, mais en fait, on travaille pour l'humain. Et ça, faut pas l'oublier. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais vous parler d'un projet de recherche sur lequel je travaille actuellement, qui est un projet de recherche au château d'Amboise. Nous sommes en train de travailler sur un dispositif virtuel pour reconstituer le mobilier. Et j'ai participé à une journée d'études la semaine dernière et à la lecture et avec des échanges avec des historiens qui me disaient, mais Pourquoi ? On s'est posé la question de, après tout, dans les dispositifs de médiation, nous avons toutes les possibilités aujourd'hui avec tout ce qui est reconstitution 3D, impression, scanner, modélisation par drone, reconstitution de l'architecture qui n'est plus, de reconstituer les choses, voire d'une meilleure manière, c'est-à-dire de ce qu'elles sont conservées dans les objets, dans les musées, en fait. Puisque quelquefois, dans les musées, les objets sont abîmés par le temps, subissent certaines problématiques. Et donc, la reconstitution, en fait, elle est plus esthétique et scientifiquement, en plus, en termes de savoir, elle transmet aussi plus de choses. Donc, pourquoi il faut mettre ces objets à côté de ces dispositifs de médiation numérique, pourquoi il faut encore exposer ces objets ? Donc là, on est clairement dans physique et digital, tout simplement parce qu'en fait, les objets sont passeurs de temps, passeurs d'une relation humaine au travers le temps, et on en revient toujours à la même chose, en fait. C'est que là, je pense que oui, en effet, nous avons toutes les possibilités numériques, et vous, étudiants, je pense que vous le savez, d'assister à vos cours, d'avoir de la connaissance, mais on a tous envie de revenir, en fait. Moi, en tant qu'enseignante, j'ai envie de revoir mes étudiants, vraiment, pour de vrai, en fait. Et mes étudiants me disent, madame, voilà, c'est bien d'avoir un cours en vrai, en fait. C'est, voilà, il y a quelque chose qui nous manque, qui est tout simplement de l'ordre de la relation humaine. Alors oui, c'est possible de tout digitaliser. On arrive quand même à des choses. Je ne dis pas qu'on arrive à rien, mais je pense que à travers le digital doit rester un outil qui permet la rencontre, parce que c'est ça qui fait avancer l'humanité, c'est la rencontre anthropologique. En anthropologie, vous voyez bien que l'humain a évolué parce qu'il a rencontré l'autre. Là, on est exactement dans ce même discours.
Moi, je pense qu'on peut finir là-dessus parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne conclusion, c'était personnellement. Bon. Donc, on va terminer là-dessus. Merci en tout cas d'être venue avec nous, Maryse.
Et merci. Je vous en prie. Merci de m'avoir invitée.
Merci à chacune de vous deux. C'était très, très intéressant.
Voilà, une bonne discussion autour de notre thématique IRL versus URL. On se retrouve demain à la même heure. Merci à tous.
Merci.
Retrouvez-nous sur journeedelacom37.fr et les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et même TikTok. À très vite.